Alors pour cette séance, nous avons un philosophe. Ce n'est donc pas un théologien, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas donc quelqu'un d'église qui explique la doctrine de l'église. Non, c'est un philosophe qui pense à partir de lui-même. Alors bien sûr, il a en tête quelques concepts du christianisme, du luthéranisme en particulier, mais il reprend tout à neuf à partir de la raison. Et donc vous allez voir que la réflexion est vraiment différente. Mais je trouve que Kant est vraiment un philosophe qui a dit quelque chose sur le mal, quelque chose de puissant, quelque chose d'intéressant. Alors bien sûr, il n'a pas résolu le problème comme personne, parce que finalement il va dire que c'est unbegreiflich, unerforschlich, ça veut dire insaisissable, on ne sait même pas, inscrutable, etc. Mais enfin, il va aller assez loin, je crois, dans l'analyse des choses. La fois prochaine, qui n'est pas donc le jeudi de l'Ascension, mais le jeudi après, nous verrons un autre philosophe qui est Blondel. Mais Blondel est un philosophe plus récent, et c'est un philosophe catholique aussi, qui est davantage proche du dogme. C'est plutôt un philosophe, lui, qui dit « j'essaie de comprendre philosophiquement ce que le dogme me dit ». Donc c'est un peu une autre posture. Hein. Ici, nous avons un philosophe qui dit « bon, ben, on raconte ce qu'on veut, hein, éventuellement j'écoute un peu la Bible ou le dogme, mais je pars à partir de moi, hein, à partir de ma réflexion ». C'est évidemment le devoir du philosophe, hein, de réfléchir à partir de lui-même. Il ne doit pas se laisser influencé par des opinions, comme on dit en philosophie, hein, par des a priori, par des idéologies. Il essaie vraiment de prendre les choses à neuf. Alors, Kant, d'abord la première introduction. Kant, il est né en 1724, ça veut dire juste 500 ans après qui? 1224, c'est Saint Thomas d'Aquin, voilà. Et d'ailleurs, il critique beaucoup le réalisme de Saint Thomas d'Aquin. Parce que pour saint Thomas d'Aquin, comme pour Aristote et tous les philosophes, si on veut, jusqu'à cette époque-là, la connaissance. Qu'est-ce que c'est la connaissance? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour connaître quelque chose? On se tourne vers l'objet à connaître. Et on regarde l'objet à connaître dans tous les sens. On se demande comment il est fabriqué, de quoi il est fait. Donc l'attention, quand on veut construire une connaissance, l'attention est entièrement dirigée sur l'objet. Normal, non? Tout le monde est réaliste, spontanément. Et donc, si vous voulez connaître le soleil, qu'est-ce qu'on fait? On étudie le soleil. Et bien, Kant dit, non, avant ça, il faudrait étudier autre chose. Quoi? Le sujet. Avant d'étudier le soleil, je dois étudier mon œil. Comment est-ce que l'œil perçoit les choses? Et comment est-ce que l'œil va percevoir le soleil? Qui peut-être, il est peut-être vert, mais mon œil le voit jaune. Donc, ça c'est le grand tournant copernicien, comme il dit lui-même, de sa philosophie. Il entre dans une philosophie critique, où il critique d'abord le sujet de la connaissance, le sujet qui fait, hein, l'acte de connaître. Avant de critiquer l'objet de la connaissance en disant qu'est-ce que c'est une table, qu'est-ce que c'est le soleil, etc. Et en effet, je crois que c'est une très bonne idée. Aujourd'hui, on est habitué à ce tournant copernicien. Mais pour bien connaître les objets qui nous entourent, il faut savoir quel est le type de sujet connaissant que je suis, que nous sommes. Hein. Et il est possible, au fond, que nous ayons tous les mêmes lunettes de telle couleur, je ne sais pas quoi, et puis que nous disons que le soleil a telle couleur, que le monde a telle couleur, parce qu'on a tous les mêmes lunettes, mais enlevons ces lunettes. Mais c'est impossible. Hein? Si on enlevait ces lunettes, que serait l'objet en lui-même? Ah ben ça, c'est ce qu'on ne peut pas savoir. Parce que nous sommes des sujets humains, construits tous de la même manière, et occupés à acquérir des connaissances, tous avec les mêmes lunettes, les mêmes instruments, les mêmes sens, la même intelligence, etc. Hein? Mais si un martien venait ici avec d'autres lunettes, ou un ange, ou je ne sais pas qui, il verrait peut-être tout autrement. Donc l'objet même de là, que l'on veut connaître, n'est pas la première chose qu'il faut examiner lorsqu'on veut connaître, selon Kant. Hein, c'est le sujet qu'il faut étudier. Il faut étudier le sujet. Donc c'est le tournant copernicien. Pourquoi copernicien? Ben parce que Copernic a été un des premiers à fournir les preuves de l'héliocentrisme. Non, ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Eh bien, même chose pour la philosophie. Non, la connaissance, ce n'est pas le sujet qui tourne autour de l'objet, c'est l'objet qui tourne autour du sujet connaissant. Basculement. Alors, il a écrit trois critiques. La critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, et puis la critique du jugement. Alors, on va dire un mot de la critique de la raison pure, qui précisément présente ce tournant copernicien. Parce que pour lui, finalement, les sciences, ça c'est le grand boom à cette époque-là, le grand boom des sciences. Qu'est-ce que c'est une connaissance scientifique, une connaissance sérieuse, solide, basée sur Erfahrung, l'expérience, une expérience qui est nécessairement spatio-temporelle. Nous n'avons aucune expérience de quelque chose qui ne soit pas et dans le temps et dans l'espace. C'est impossible. Si vous me montrez un ovni en me disant « Oui, il est là, mais il n'est pas dans l'espace. » Je dis « Ah bon, ben comment le sais-tu ? Je ne le vois pas. Ah ben, il y a quelque chose là, mais vous voyez, il est là, mais il n'est pas dans le temps, lui. Il ne vieillit pas. » Ah ben, impossible. L'objet de la science est nécessairement dans le temps et dans l'espace. Toute expérience scientifique est nécessairement spatio-temporelle, donc ce qui n'est pas dans l'espace et le temps est inconnaissable par la science. Donc Dieu est inconnaissable par la science. Alors le but de Kant n'est pas de fonder un athéisme, non, parce qu'au contraire, on va voir que dans la deuxième critique, on va rattraper Dieu, si on veut, le concept de Dieu, mais c'est certain que dans la première critique, critique de la connaissance, fondement de la connaissance scientifique, Dieu n'est pas un objet scientifique. Alors beaucoup ne sont pas d'accord avec cette définition, ils disent oui, mais on peut quand même connaître quelque chose, etc. Mais voilà, lui dit connaissance scientifique. Non, pas de connaissance scientifique de Dieu. Ni d'ailleurs de l'âme, nous avons une âme, il l'admet, oui, enfin on le verra plus tard, ni de certaines autres choses, mais il y a des choses qui ne sont pas dans le temps et l'espace. Mais ces choses-là, il ne faut pas prétendre en avoir une connaissance scientifique. Alors aujourd'hui, en fait, toutes les sciences sont bâties sur une épistémologie, sur une théorie du type kantien, mais on a tellement, disons, d'intérêt pour ce type d'exercice de connaissance qu'on a oublié les autres exercices de connaissance possibles. Et on dit qu'il n'y a plus que celui-là qui est valable. Là, Kant n'allait pas jusque-là. Mais disons, il a fourni l'occasion de dire cela à ceux qui veulent lire la première critique et pas la seconde. Parce que la seconde, qu'est-ce qu'elle dit la seconde? La première critique, c'est « Que puis-je savoir ?»« Was kann ich wissen ?» Seconde critique, « Que dois-je faire ?»« Que dois-je faire ?» Vous pouvez avoir toute la science que vous voulez, vous ne savez pas toujours, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Votre liberté... Votre liberté n'est pas commandée par votre savoir. Vous pouvez savoir autant de choses que vous voulez, et bien instantanément vous devez quand même dire, ben maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche, je vais à droite, je mange ou je dors. Vous prenez vos décisions indépendamment de votre science. C'est une autre instance, c'est la volonté, c'est la liberté. Alors, bon ben voilà, il faut étudier la liberté. Que dois-je faire? Parce qu'au fond, au fond, au fond de toutes nos décisions, nous le disons, que dois-je faire? Aller à gauche ou à droite, faire le bien, faire le mal? Bon, il y a cette question à laquelle la science ne répond pas. Vous y répondez par votre liberté. Et votre liberté, elle échappe aux conditions de la connaissance scientifique. Pourquoi est-ce que ce monsieur-là, il est gentil, et ce monsieur-là, et cette madame-là, pas? Pourquoi est-ce qu'ils sont libres de faire le bien et le mal? Difficile à expliquer, Donc, la liberté, que dois-je faire? Eh bien, ça, c'est vraiment la question. Au fond de la liberté, il y a l'impératif catégorique. Tout le monde a, au fond de lui-même, au fond de sa conscience, pas Bewusstsein, mais Gewissen, l'allemand et le néerlandais font une différence entre la conscience cognitive et la conscience morale, au fond de la conscience morale, nous avons tous le même impératif catégorique, le même loi, le même commandement qui dit « tu dois faire le bien ». Il n'y a personne qui entend sa conscience lui dire autre chose. Personne. Ça, c'est vraiment le postulat pratique de Kant. Là, vous allez me dire « oui, mais il y en a beaucoup qui font le mal ». Oui, oui, ben, attendez. Hein. Ils font le mal contre leur impératif catégorique. Ou bien en discutant, en marchandant avec leur impératif catégorique. Mais tout le monde a cet impératif catégorique au fond de lui-même. Tout le monde sait qu'il doit faire le bien. D'ailleurs, celui qui n'a pas cette voix au fond de la conscience, ce n'est pas un homme pour lui. Point final, ce n'est pas un homme. Parce que cette conscience catégorique, c'est la définition même de l'être humain. Son sens moral, c'est la définition même de l'être humain. Alors vous allez me dire, oui, mais j'en connais qui ont vraiment, sont très méchants, très méchants. Ben, ils sont très méchants, mais c'est toujours contre l'impératif catégorique qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Comme nous tous, nous avons le même qui dit la même chose. Et même s'ils sont très méchants, eh bien, vous allez voir, c'est le point 6. La conversion est possible. Ah, mais vous allez voir, ça c'est la plus belle partie, à mon avis, de son développement. Hein. Comment est-ce possible ? Alors voilà, nous avons tous, au fond de nous-mêmes, cet impératif catégorique qui n'est pas situable dans le temps et l'espace. Non. Qui nous dit des choses qui n'ont rien à voir avec la science. Tu dois faire le bien. Et chaque fois que nous faisons un acte de liberté, qu'il soit petit, qu'il soit grand, eh bien la liberté recommence à neuf sa décision. L'être libre, il est libre parce qu'à chaque moment, il peut changer de décision. Alors vous allez me dire, oui, mais on a l'habitude de faire ça. Vous avez l'habitude, mais vous pouvez casser l'habitude. Vous pouvez devenir mauvais alors que vous êtes bon, vous pouvez devenir bon alors que vous êtes mauvais. À chaque fois, il n'y a rien à faire, vous devez faire un petit effort ou un petit geste de liberté. La liberté, c'est une spontanéité, c'est une source jaillissante à tout moment, hein, qui décide de faire ceci, de faire cela. Ben c'est la définition de la liberté que nous connaissons bien. Hein. Je veux être libre, nous désirons tous être libres, et nous jouissons d'une grande liberté aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, en tout cas ici plus qu'ailleurs, parfois. Mais cette liberté, il faut l'utiliser à chaque moment, il faut faire un geste de liberté, un acte de liberté. On n'est jamais mis sur des rails. Hein. Si on était mis sur des rails, eh bien on ne serait plus un être humain. On serait une machine, on serait un robot, ou bien on serait un animal peut-être, on ne sait pas, mais la définition même de l'être humain, c'est cette liberté jaillissante, spontanée. Hein. Spontanée, ça vient de jaillir, hein. Écumer, soulever. Voilà, donc cette liberté est sans cesse en train de prendre des décisions. Alors, elle prend des décisions en entendant cette voix qui dit « tu dois faire le bien ». Mais maintenant, cet impératif catégorique, il est invisible, il est très au fond de nous-mêmes, très au-delà du sensible. Et en fonction de quoi est-ce que nous prenons nos décisions ? Eh bien, tous en fonction de « tu dois faire le bien ». Oui, mais il y a un filtre, il y a un fameux filtre. Il y en a qui entendent « tu dois faire le bien », il y a « tu dois faire le bien », je fais le bien. Pourquoi ? Parce que c'est le bien, terminé. Quelle est la raison de faire le bien ? Parce que c'est le bien. Eh bien, ça c'est parfait. Ça c'est parfait, c'est l'homme le plus moral qui existe. Je fais le bien pour la seule raison que c'est le bien. Cette personne-là a compris que la loi morale tient par elle-même, se soutient par elle-même, n'a pas besoin de motivation complémentaire. Vous voyez quelqu'un, vous l'aidez, vous lui donnez de l'argent, je fais le bien parce que c'est le bien. Oui, mais moi je donne de l'argent parce que ce qu'on m'a tous vu, oui, vous me voyez tous faire le bien, hein, bon, je fais le bien. Oui, mais il y a un petit motif supplémentaire, hein, c'est que comme ça on me voit faire le bien et que je suis content d'avoir, etc. Ah, j'ai déjà un peu mis quelque chose de plus dans la source pure de l'impératif catégorique. J'ai mis une motivation qui ne s'y trouvait pas. La motivation, c'est je fais le bien. Pourquoi ? Parce que c'est le bien. Il n'y a pas d'autre raison. Si vous savez ce qu'est le bien, si vous écoutez cette voix en vous, il n'y a pas besoin d'autres adjuvants hein, pour faire le bien. Mais justement, nous avons toutes sortes de filtres, toutes sortes d'adjuvants et toutes sortes d'adjuvants qui sont souvent plutôt des ingrédients empoisonnants de notre impératif catégorique. Alors l'impératif catégorique, donc, se monnaie ensuite, se diffracte, prend tout l'éventail des maximes de conduite. L'impératif catégorique est absolument objectif. Il est dans la conscience de chacun, dans la mienne, dans la vôtre, mais il est dans le moi transcendantal, comme il dit, dans l'humanité. Hein, il est objectif. Mais maintenant, moi, eh bien, je distille cet impératif catégorique dans toutes sortes de maximes de conduite qui me sont propres, qui sont propres à mon histoire, voilà, à mon métier, à ma culture, à mon éducation, etc. Et j'ai toutes sortes de maximes de conduite qui, elles, sont subjectives. Elles sont subjectives parce que chacun de nous se donne un peu des règles de conduite différentes. Si on était tous parfaitement moraux, nous n'aurions pas à discuter pour savoir si il faut faire ceci ou faire cela. Nous le verrions tous clairement. Donc je prends des maximes de conduite, par exemple. Je rembourse toujours mes dettes parce que je ne veux pas d'ennui. Est-ce que c'est une conduite morale ? Oui, il vaut mieux rembourser ses dettes, hein, mais parce que je ne veux pas d'ennui, ça n'a rien à voir. Hein. Si même vous avez des ennuis en les remboursant, il faut les rembourser. Quand vous ajoutez « parce que comme ça, j'aurai pas d'ennui », eh bien, vous n'obéissez pas parfaitement à l'impératif catégorique. Je ne supporte pas qu'on batte un enfant parce que moi-même, j'ai été battu. Bon, ben, c'est très bien de ne pas vouloir accepter qu'on batte un enfant, mais la raison pour laquelle que vous évoquez n'a rien à voir. Alors, ça vous aide peut-être vous, mais ça met de la subjectivité dans votre maxime de conduite. Et cette subjectivité, ben, elle est inévitable, mais elle est un peu dangereuse. Il faut voir si elle est bien ordonnée. Hein? En fait, l'impératif catégorique, comment peut-on le formuler? Dans sa pure formulation, c'est « du sollst », « tu dois ». Et en allemand, le verbe « sollen », c'est un verbe qui n'est pas tout à fait égal à « devoir hein? ». Parce qu'il y a « müssen » et « sollen ». Et sollen, c'est vraiment l'obligation morale. Hein. Ce n'est pas l'obligation du müssen, c'est différent. Enfin, peu importe. Mais donc, une formule très ramassée de l'impératif catégorique serait celle-ci. Agis uniquement d'après une maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Il faut que ta maxime subjective, eh bien, elle puisse s'appliquer à tout le monde, que tout le monde l'applique, et bien dans ce cas-là, tu es très proche de l'impératif catégorique. Alors si je dis, par exemple, moi je rembourse mes dettes, sauf aux riches, hein, par exemple, et bien voilà, peut-être que j'ai raison finalement, mais ce sauf aux riches, et bien ajoute quelque chose de subjectif. Et là donc, la maxime n'est plus tout à fait proche de l'impératif catégorique. Et je ne peux pas faire de ça une loi universelle. Parce que si je dis, tout le monde peut maintenant hein, rembourser ses dettes sauf aux riches, ben, moi, il y a des tas de gens qui sont plus pauvres que moi, donc à moi, on ne va plus jamais rembourser. Hein. Et aux autres non plus. Donc plus personne ne se rembourse à personne, parce qu'il y a toujours un plus riche hein, à qui on ne veut pas rembourser. Ce n'est pas possible. Je dis toujours la vérité. Eh bien, il faut s'arrêter là. Je dis toujours la vérité. Pas acquis de droit. Non, je dis toujours la vérité. Point final. Il ne faut pas ajouter à mes amis et pas à mes ennemis. Non. Hein. Il faut vraiment être claque dans la pureté de l'impératif catégorique. Donc, si je dis la plupart du temps la vérité, ben, si on ne fait de ça une maxime universelle, il n'y a plus personne qui dira la vérité à personne et on vivra dans un monde de méfiance. On ne peut pas universaliser cette maxime. Même si elle est très pratique pour vous ou pour moi, hein, dans certaines circonstances, on ne peut pas l'universaliser. Donc une maxime qu'on ne peut pas universaliser, eh bien, elle est trop subjective, elle ne correspond pas à l'objectivité de l'impératif catégorique. Une autre formule, c'est ne fais jamais à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, la règle d'or de l'évangile et de beaucoup de philosophie. Ça, c'est assez proche de la formule de l'impératif catégorique. Et puis, une formule qu'il invente lui-même et qui est très belle, et que d'ailleurs la morale de l'Église reprendra, sans dire que c'est de Kant. Hein. Considère toujours autrui comme une fin et jamais comme un moyen. L'autre, la personne, hein, est toujours une fin en soi et jamais un moyen. Tu ne peux pas faire de l'autre un objet. Un animal, bon, ben, éventuellement, on peut dire qu'on en fait un objet que je vais manger ou je ne sais pas quoi. Mais dans l'univers, il y a peut-être des tas de choses dont je peux me servir, mais pas un être humain. Je ne peux jamais considérer un être humain comme un objet, comme un moyen qui me sert à moi, hein, ou même à d'autres. L'autre est toujours une fin absolue en soi, que je dois respecter comme telle. Voilà, ce sont différentes formules de l'impératif catégorique qui se monnaient ensuite dans des maximes de conduite, plus ou moins donc fidèles, plus ou moins à distance de l'impératif catégorique. Alors, qu'est-ce qui fait cette distance ? Il y a une vraie distance, hein. Parce que par exemple, si vous rencontrez, quand est-ce qu'un homme est méchant ? Ben, vous voyez quelqu'un qui fait des bêtises, qui vole, tout ça, qui tape, vous dites, ouais, celui-là, il est méchant. Mais vous pouvez voir quelqu'un qui ne fait absolument aucun acte mauvais, mais qui vous tient un discours froid sur ce qu'il faudrait faire, hein, dans ce monde. Et vous sentez que, oh là là, son idéologie, là, son propos est très dangereux. Hein, que si jamais on l'applique, alors là, ben, c'est la dictature ou c'est je ne sais pas quoi. Alors lui, il n'a rien fait de mal. Hein. Il donne une interview à la télévision et il donne ses idées utopiques, ses projets politiques, etc. Alors, il n'a rien fait de mal. Alors le voleur, vous dites, celui-là, il a fait quelque chose de mal. Mais c'est un pauvre type, vous le connaissez. Bon, il va peut-être se repentir, rendre la chose, en tout cas, bon, c'est pas bien grave. Il a fait un acte mauvais, un acte visible mauvais, mais vous savez qu'au fond, il n'est pas si mauvais que ça. Tandis que l'autre bonhomme, là, il n'a rien fait de mal, mais vous sentez que le fond est dangereux. Hein. Qu'au fond de lui-même, il y a quelque chose de vicié à la source même. Et vous sentez que l'impératif catégorique pour lui c'est pas grand chose, hein. Alors le voleur dit oui, moi j'avais faim, j'avais vraiment envie de prendre ce truc, etc. Je sais bien que c'est pas bien, mais enfin je l'ai fait. Bon, vous voyez qu'il a compris, mais l'autre vous sentez que l'impératif catégorique il en est assez loin, hein. Il a mis beaucoup de filtres, hein. Bien sûr, comme il connaît le truc, il enrobe ça pour que les autres le croient, mais en fait vous sentez qu'au fond là c'est dangereux. En effet, prenez le tableau là, en bas à gauche. Tout en bas, vous voyez les actes particuliers observables. Ça, c'est ce que nous voyons, que font les autres. Nous nous regardons les uns les autres, nous voyons ce que nous faisons. Mais ce n'est pas la valeur morale des personnes. Vous savez bien qu'elle ne se limite pas à l'acte particulier. C'est le fond, à l'intérieur. La liberté qui est invisible, l'intention, etc. C'est ça qui est plus important pour juger de la valeur morale d'une personne. Évidemment, bon, le droit doit s'occuper de ce qu'on voit, du phénomène. Hein. Ça, c'est très kantien aussi. C'est observable, ce sont des axes particuliers, c'est le phénoménal, ce qu'on voit. Ce qui est d'ailleurs objet de science. Mais en fait, la liberté, elle est invisible, elle est nouménale. Vous voyez au-dessus, là, au-dessus du phénomène, hein, en vertical, noumène. Alors, c'est quoi noumène ? C'est la réalité invisible. C'est le réel qui n'est pas dans le temps et dans l'espace. Alors il est où ? Pas dans le temps et l'espace. C'est la liberté. Alors, tout au sommet de ce noumène, de cette réalité nouménale, il y a l'impératif catégorique qui est objectif, qui est le même pour tous. Mais il y a les différents éléments de la destinée humaine, comme il dit, avec les mobiles de la liberté. Et alors c'est là que je vous proposerai donc, après avoir expliqué le titre de les différentes réalités qui composent l'être humain, l'animalité, l'humanité et la personnalité. sont les trois strates anthropologiques, si on veut, qui se trouvent dans l'être humain. Mais avant cela, donc, je vais vous présenter, puisque c'est le titre de la leçon, le mal radical, je vais vous présenter l'écrit dont ça sort. Après avoir écrit ces trois critiques, critique de la science, critique de la morale, hein, et puis critique du jugement, ça veut dire le beau, la finalité, enfin il y a différentes choses. Ensuite il fait une critique de la religion. La religion à l'intérieur des limites de la raison pure. La religion à l'intérieur, dans les limites de la simple raison. 1793. Donc il étudie la religion en s'appuyant évidemment sur la morale, hein, qu'il a déjà développée dans la deuxième critique. Il y a quatre parties dans cet ouvrage, ce n'est que cette partie-ci. Hein. Il y a quatre parties. La première partie s'intitule justement « De l'inhérence du mauvais principe à côté du bon ou du mal radical dans la nature humaine ». Vous avez ce titre là, vous le voyez. De l'inhérence, inhérence. Alors en français, inhérence peut s'écrire tout à fait autrement et signifie autre chose, hein. Ne pas errer. Hein. L'inhérence de l'écriture sainte, dit-on. Hein. Mais ici, c'est autre chose, donc c'est l'inhérence, être inhérent, être à l'intérieur, Einwohnung, habiter dedans. De l'inhérence du mauvais principe à côté du bon, ou du mal radical dans la nature humaine. Alors, je commence ce titre. De l'inhérence du mauvais principe à côté du bon, donc il y a deux principes. Il y a deux principes. Voilà, pour Kant, il y a deux principes. Il y a le principe du bon et le principe mauvais. Le bon principe et le mauvais principe, ils sont l'un à côté de l'autre. Mais, attention, le mauvais principe, il est à l'intérieur du bon. Le bon est premier. Le bon est plus important. Le bon est dominant. Le second, il est parasite. Il vient se greffer sur le bon principe, hein, pour le parasiter, pour l'empoisonner, mais il n'est pas premier. Donc de l'inhérence du mauvais principe à côté du bon ou du mal radical dans la nature humaine. Mais même s'il est adventice, hein, même s'il est à côté, même s'il est parasite, il est radical, hein, il est profond. Il va jusqu'au fondement. Mais le vrai fondement, c'est le principe du bon. Mais le principe mauvais se greffe sur lui tout au fond. Alors comment est-ce que c'est possible? Selon Kant, il y a deux principes, donc le bon et le mauvais, dans l'homme. Ils sont principes l'un et l'autre. Au même titre. Même si l'un est vraiment premier et l'autre second, ils sont quand même principes l'un et l'autre parce qu'ils se rapportent tous les deux à l'usage entier de la liberté. Donc, le principe du bon et le principe du mauvais, ils prennent toute la liberté. Toute la liberté est sous l'emprise de ces deux principes. Le mauvais principe, cependant, est inhérent, il habite à côté du second, ce qui semble suggérer que le bon domine quand même, du moins que la première place lui revient de droit. De droit. De droit, le bon principe est premier. Le mauvais principe est pourtant le principe d'un mal radical, ce qui indique la profondeur de son inhérence dans la nature humaine. En effet, le bon principe, il est une disposition, Anlage, dit Anlage, une disposition. Tandis que le mauvais principe est un penchant, Der Hang, un penchant. Donc le bon principe est une disposition, c'est bien solide, et l'autre essaye de faire basculer, hein, le bon principe en étant, en pendant d'un côté, hein, en étant un penchant mauvais. Disposition et penchant sont à distinguer l'un de l'autre et à distinguer aussi de l'inclination sensible. L'inclination sensible, je suis un peu gourmand, je suis un peu sensuel, je suis un peu curieux, je suis un peu... Ça, ce sont des Neigungen, hein, des inclinations sensibles. Non, le penchant mauvais, c'est plus que ça. Hein. Ce n'est pas une petite envie de la sensibilité. Hein. C'est quelque chose qui a à faire avec la volonté, avec la liberté. En fait, les dispositions, les inclinations sensibles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Hein. aimer manger, ben, ce n'est ni bon ni mauvais. Heureusement que nous aimons manger, sinon on oublierait de le faire, on mourrait de faim. Hein. On aime manger, mais tout est dans la manière dont on va utiliser cette inclination. Donc en fait, c'est indifférent. Les trois éléments de la destinée humaine. Voilà, en tant qu'être vivant, je suis dans la colonne d'en bas à gauche, l'animalité. L'homme en tant qu'être vivant a une animalité qui est pleine de tendances et d'inclinations sensibles. Il a une humanité qui est commandée par sa rationalité. L'humanité, c'est la rationalité de l'homme. Et il a une personnalité. La personnalité, c'est vraiment le rapport à la morale, le rapport à l'impératif catégorique. Est-ce que ce qui fait une personnalité, c'est le respect de l'impératif catégorique, la proximité avec l'impératif catégorique. Au fond, c'est la personnalité morale, si on veut. L'humanité, c'est la personnalité rationnelle, intellectuelle, un peu plus même, mais dans l'humanité, et la personnalité, c'est la personnalité morale. Le respect Achtung, le respect pour l'impératif catégorique. Alors voilà, en fait, l'animalité, c'est l'amour de soi, comporte l'amour de soi qui est triple, conservation de soi par l'alimentation et la défense, conservation de l'espèce par l'instinct sexuel, association dans la tendance au regroupement, voilà, bon, c'est un amour de soi, l'animalité, de soi au sens large, hein. L'humanité, c'est l'être raisonnable qui comporte aussi un amour de soi jugé à partir de la raison, qui compare les valeurs intellectuelles, culturelles, objectives qui existent entre les hommes. L'humanité se développe dans cette construction intellectuelle de chacun et de l'humanité comme telle, avec des valeurs intellectuelles, culturelles, artistiques, tout ça, et avec le désir de se ménager dans l'opinion d'autrui, eh bien, une préférence, une prévalence. L'humanité, c'est de se mettre en avant devant les autres. Tandis que la personnalité morale caractérise l'homme comme un être non plus simplement raisonnable, mais comme un être moral, doué de ce respect, Achtung, pour l'impératif catégorique, de cette responsabilité pour tout ce qu'il fait, de cette aptitude à connaître la loi et à vouloir l'appliquer en toutes circonstances, sans se laisser dévié par d'autres motivations qui viendraient de l'animalité ou de l'humanité. Donc sa personnalité, plus je dirais une personne est capable de considérer l'impératif catégorique comme le seul motif de son action, plus c'est une personnalité grande, riche, valable, respectable. Être une personne, et c'est quand même un rapport avec le concept de personne, je crois que la philosophie moderne, contemporaine en parle beaucoup aussi. Être une personne, c'est percevoir justement ce sens moral des choses. Et sentir que la catégorie morale est la catégorie principale. Que la loi morale se soutient par elle-même. Il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi il faut faire le bien. C'est comme ça. La personne comprend que l'animalité doit être soumise à l'humanité et l'humanité à la personnalité. Donc voilà, la personnalité, c'est l'édification de cette hiérarchie. Hiérarchie, vous avez dans la colonne en bas à droite cette fois-ci, la hiérarchie, animalité, humanité, personnalité. Ça c'est la hiérarchie. Ce principe bon, donc, structure la personnalité, c'est une disposition essentielle, et qui est d'origine divine, dit-il. Alors Kant croit en Dieu, parce que son Du Sollst l'amène à postuler de manière obligatoire l'existence de Dieu. Même si au niveau scientifique il est agnostique, au niveau moral il est théiste. Il est théiste. Alors il ne croit pas trop à la Trinité, Jésus, bon, ben, c'est un bon exemple à suivre, et pas beaucoup plus. Mais il est vraiment théiste, il n'est pas du tout athée. Il est agnostique scientifiquement. Mais il est entièrement théiste moralement. Alors, cette disposition au bien, parle un peu plus, elle est cette tendance, cette Anlage, hein, cette tendance à toujours observer scrupuleusement la hiérarchie, à mettre constamment la subordination qui convient, personnalité, humanité, animalité. Alors il y a bien sûr quantité d'autres motifs qu'on pourrait avoir par rapport à une action bonne, mais il faut toujours que ce soit l'impératif catégorique qui soit premier. Si les autres motifs interviennent trop, eh bien on commence à ne plus obéir tout à fait à l'impératif catégorique. Cette disposition bonne appartient à la nature humaine, nécessairement, la définition de la liberté, elle est constitutive de l'homme. L'homme n'en est pas l'auteur. On peut l'appeler innée, et elle annonce, comme il dit, une origine divine. On sent que ce doux Zolst, c'est la voix de Dieu, quoi, hein. C'est Dieu qui a créé l'homme ainsi. Tandis que le penchant au mal, alors ça devient intéressant ici, regardez comment il va raisonner. Lorsqu'on a défini l'homme par sa disposition au bien, à faire le bien, eh bien théoriquement, on a tout dit de l'homme. La nature de l'homme, c'est un être qui désire faire le bien, qui est disposé à faire le bien, qui veut faire le bien. Quand on s'en tient à la théorie, ce principe bon, cette disposition, elle définit l'homme, et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ça, c'est la théorie. Mais, dit-il, si on a tout dit au niveau théorique de l'homme en disant qu'il est bon, dans la pratique, eh ben, on trouve autre chose. Dans la pratique, dans l'observation, hein, on trouve autre chose. On découvre à côté, si on regarde les faits, eh bien, que tout le monde n'obéit pas simplement au principe bon qui est en lui. Le penchant au mal appartient non pas à la définition théorique de l'homme, mais à sa définition pratique. Alors vous voyez, c'est une subtilité, mais que je trouve très intéressante. Hein. Cet penchant au mal, il est vraiment dans l'homme, nous le constatons, mais il ne fait pas vraiment partie de sa définition théorique. Sa définition théorique, c'est la définition pratique de l'homme. Nous sommes tous d'accord ici que nous sommes tous très gentils, que nous allons faire le bien, etc. Bon, mais première discussion qui s'amorce, on commence à se battre. Hein? Pourtant, on était tous d'accord, hein, qu'on allait seulement faire le bien et seulement être gentil. Mais ça ne marche pas. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ben, c'est la pratique. Ça ne marche pas. De droit, l'homme est défini par sa disposition bien, et de fait, il faut aussi ajouter à côté de cette disposition bien ce fameux penchant au mal. Alors d'où vient-il? Dans tout exercice de liberté, on se rend compte qu'un autre principe est venu s'ajouter subrepticement pour corrompre, empoisonner le principe du bien. Alors le corrompre, mais attention, pas le corrompre entièrement. Là, il se prend distance par rapport à Luther. Hein. Ce principe ne corrompt pas absolument. C'est toujours le principe du bien qui gagne. Ce principe, il est toujours accidentel. Il est toujours par hasard. Il est toujours gelegentlich, zufällig. Pourquoi? Parce que, écoutez, moi, voilà mon impératif catégorique. Hein. Moi, je fais toujours le bien. Oui. Enfin, toujours, oui, toujours. On ne sait jamais, il peut arriver quelque chose, où vraiment c'est très très difficile de faire le bien, mais non, en principe, je fais toujours le bien. Mais, écoutez, gelegentlich, à l'occasion, si vraiment c'est un peu nécessaire de dire un petit mensonge, allez, c'est quand même pas si grave, quoi. Hein. Alors, vous voyez, on veut maintenir le bon principe, mais accidentellement, subsidiairement, complémentairement, on n'est pas si sûr et si certain que ça, hein, qu'on obéira aux douze hostes. Alors, il y en a qui disent ça, mais disons, dans 90% des cas, ils ne vont pas tomber, hein. Mais il y en a qui disent ça, et dans 60% des cas, ils vont tomber, quoi. Hein? Alors chacun dit oui à l'occasion, mais à l'occasion, pour un, c'est presque jamais, et pour l'autre, c'est la plupart du temps. Hein? Alors qu'est-ce qui fait la différence entre l'un et l'autre? Ben, c'est sa liberté. Oui, mais c'est sa liberté. Mais où est-ce qu'on voit cette liberté? Eh bien, elle est invisible. Hein. Il a pris ça à l'intérieur de lui-même. Hein. C'est sa disposition dans cette traduction hein, de l'impératif catégorique dans les maximes de conduite. Chacun y va un petit peu de sa petite théorie. Hein. Et il y a des théories très laxistes et des théories très strictes. Eh bien, justement, ça dépend de votre liberté. Cette distance que vous avez avec le principe bon, avec l'impératif catégorique, ça dépend de votre liberté. Mais peut-être que vous n'avez jamais vraiment étudié ça ou comparé avec un autre ou quoi. Vous voyez bien qu'un tel est plus laxiste, qu'un tel est plus sévère. Hein. Mais vous dites, bon, ben voilà. Mais non, en fait, probablement que c'est une constante en chacun. Probablement que c'est une espèce de constante en chacun. Hein. Moi, je veux bien faire 90% d'efforts. Hein. Mais les 10% qui suivent, bon, c'est déjà bien, quoi. Hein. 90%, moi, je suis content. Les 90%, quoi. Hein. Mais d'autres, non, ils disent, bon, dès que j'ai 60, je passe, hein, c'est bon, ça suffit, etc. Mais chacun a probablement, même si ça peut varier dans le temps, apparemment, dans le phénomène, probablement qu'au fond de soi, chacun a pris une décision qui est à peu près constante. Alors les circonstances font que ici on voit comme ici j'ai fait un très bon acte et là bon ben j'ai un peu raté mon coup. Enfin, la constante est là. Alors ça c'est intéressant parce que pour Kant, au fond, notre liberté quelque part de manière invisible a fait une espèce d'option fondamentale, a fait une espèce de choix. De choix, proportionnel hein, entre la dureté de cette loi de l'impératif catégorique et toutes les autres motivations un petit peu quand même tentantes. Hein. On a fait une proportion et ça varie un petit peu à l'intérieur de la personne, mais voilà, il y a une espèce pour lui de choix suprasensible qui n'est pas dans le temps et dans l'espace, de notre liberté qui n'est pas non plus dans le temps et l'espace, de notre âme qui est immortelle. Quelque part, on a pris cette décision. Alors vous allez me dire, oh là là, ça commence à chauffer là. Hein. Oui, mais ça c'est la dimension transcendantale de la philosophie de Kant. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui échappe au phénomène, qui est dans le nouménal, dans la chose en soi. Hein. Alors parce que, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais vous avez une âme immortelle. Vous croyez que vous avez une âme immortelle, bon moi je le crois aussi, donc j'ai une âme immortelle. Mais pour l'instant, elle est mortelle ou elle est immortelle? Pour l'instant, elle est immortelle. Oui, mais elle est immortelle. Même mon corps est mortel. Et l'âme est immortelle. Ben, si elle est immortelle, elle n'est pas dans le temps et l'espace. Elle est quelque part, elle est je ne sais pas où. Elle est déjà avant moi, après moi, je ne sais pas. En tout cas, je suis habité par quelque chose d'immortel qui dépasse les phénomènes. Eh bien, pour Kant, c'est dans cette espèce de transcendentalité de notre liberté par rapport à notre histoire et au monde que nous prenons nos décisions et pour mieux dire une décision qui ensuite se reflète et se diffracte et se répand dans notre vie. Alors quand on fera à la fin de ma vie hein, l'intégrale de tout ce bazar, on dira Potier 76 hein. Eh bien, un tel 42 ou 94. Bon. Et alors, oui, mais j'ai quand même eu souvent 90. Oui, mais vous avez souvent eu 40 aussi. Hein? Bon, d'accord. Hein? Alors, voilà, cette espèce de... Et alors, au fond, la liberté a choisi quelque part, en dehors du temps et de l'espace, dans cette transcendentalité, dans cette dimension d'origine divine, a choisi, et puis toute notre vie, nous passons notre temps à... essayer d'atteindre ce truc là qu'on a choisi. Hein. Alors certains ont mis la barre très haut, d'autres très bas. Alors peut-être que certains se disent, bon c'est trop bas, je vais essayer de monter. D'autres disent c'est trop haut, je vais essayer de descendre. Mais quelque part on a pris cette décision. Alors ça c'est très curieux hein, dans la philosophie de Kant. Mais je crois que c'est aussi quelque part très puissant. Hein. C'est aussi très intéressant pour penser la liberté. Il me semble, hein. Qu'il y a là, on n'est pas là à la petite semaine à se dire tous les jours, tiens, on recommence tout. Non, il y a une espèce de cohérence hein, de notre vie que nous façonnons, ou une incohérence de notre vie que nous façonnons. Hein. Et c'est notre vraie liberté qui se façonne ainsi, dans le temps, mais qui façonne quelque chose qui est immortel, éternel, transcendant, hors du temps et de l'espace. Hein. Notre valeur en soi, hein, si on veut, notre valeur nouménale. Alors, le penchant mauvais, il est accidentel, mais c'est une acquisition originaire. Ça veut dire que quelque part, eh bien, nous avons fait ce choix, hein, qui n'est jamais un choix 100% pour le bien. Alors, qui a fait ce choix? Eh bien, chacun d'entre nous. Parce que, comme il dit en commentant le livre de la Genèse, au fronton de son commentaire sur le livre de la Genèse, le péché d'Adam et Ève, il met cette phrase que nous avons lue à propos de David, « Cet homme, c'est toi ». Donc Adam et Ève, tout ça, la pomme, tout ça, chut, cet homme, c'est toi. C'est l'histoire de chacun. Chacun est Adam. Hein. Chacun a choisi, chacun a fait son péché originel. Chacun a choisi, a pris une décision originaire, plus ou moins bonne, plus ou moins mauvaise. Chacun a fait son péché originel. Alors vous allez me dire, oui, enfin, moi j'ai rien fait, moi. Hein. Bon, moi j'ai... Eh bien, écoutez, relisez votre histoire. Est-ce qu'il y a un moment où, dans votre conscience morale, vous avez eu l'impression d'être parfait et de choisir entièrement pour l'impératif catégorique? Reculez autant que vous pouvez dans votre mémoire. La confrontation à l'impératif catégorique a toujours été un problème. Vous dites, oula, je dois faire le bien, oh, fatigant ça, hein, oh. Eh bien, rien que dire ça, c'est déjà tombé, quoi. C'est déjà tombé, c'est votre péché originel. Hein. Vous pouvez aller aussi loin que vous voulez, il n'y a aucun être, c'est la pratique, hein, aucun être de facto qui a été devant un choix moral pour qui ça n'a coûté aucun effort, pour qui il a fait le bien comme ça sans problème. Alors certains pensent peut-être à la Vierge Marie, bon, mais lui, la Vierge Marie, c'est pas tout à fait son truc, hein, mais il dit, voilà, nous, les hommes, de facto, aussi loin que nous allions, même si je dis, moi j'ai fait 99,9% de bien, à chaque fois j'ai quand même dû dire non au mal, quand même quelque part. Hein. C'était jamais l'autoroute facile, et non, non, il y avait toujours, tous les oui sont des non au non. Tous les oui sont des victoires sur ce penchant mal ou mauvais, qui peut être très petit chez l'un et très grand chez l'autre peut-être, à cause de son acquisition originaire, de sa décision fondamentale originaire, mais aucun d'entre nous, hein, selon lui, eh bien, n'est exempt complètement de cette lutte constante pour faire le bien. Et même celui qui ne fait presque jamais le mal, il doit quand même faire un effort pour faire le bien. Et d'ailleurs, c'est la preuve qu'il est libre. À chaque moment, il peut quand même faire le mal. Et celui qui ne fait que le mal, eh bien, il peut toujours faire le bien. Chaque geste de liberté, comme il dit, doit être considéré comme jaillissant de notre première geste de liberté. C'est la première fois que nous sommes mis devant le bien et le mal. Et en effet, je dirais que si vous venez de faire le mal, vous vous dites, ben, j'aurais pu faire le bien. Et si vous dites, maintenant je vais faire le bien, vous dites, oui, mais je pourrais quand même faire le mal aussi. Hein. Il faut se décider. Il n'y a pas possibilité de faire le bien sans le vouloir. Et sans le vouloir contre quelque chose qui est en nous, qui ne vient pas d'Adam, pour lui ça c'est complètement mythologique, hein, qui vient, nous sommes chacun Adam, et nous avons chacun pris une décision originaire, mais cette décision originaire, nous devons constamment, avec force et liberté, la mettre en œuvre, et c'est la preuve qu'elle est bonne ou qu'elle est moins bonne, à partir de là. Donc voilà, cette origine du mal est assez mystérieuse, elle est, comme je disais, unbegreiflich, incompréhensible, unerforschlich, inscrutable, etc. Mais elle est là, dit-il, elle est là. Alors maintenant, je vais essayer de terminer avec la question de la conversion. Non, je dois encore parler de la fragilité, impureté, méchanceté. Il y a trois rapports, dit-il, grosso modo, hein, il y a trois rapports à l'impératif catégorique. Ou bien un rapport de fragilité. Donc, j'ai décidé de prendre l'impératif catégorique pour seule motivation de tous mes choix. Je l'ai décidé théoriquement, mais dans la pratique, je n'ai pas la force de l'appliquer. Mais mon choix est quand même ça. Il n'y a qu'un motif, fais le bien parce que c'est le bien. L'impureté, c'est de prendre l'impératif catégorique pour motif principal de mes actions, avec la nécessité d'en ajouter quelques-uns secondaires pour que ça marche mieux. Hein. Mais pour que ça marche mieux, ça veut dire pour que ça marche moins bien, en fait, moralement. Hein. Parce que si je dis, par exemple, je fais le bien pour qu'on me voie, ça m'aide, hein, quand même, quand on me voit. Hein, le faire en secret, c'est un peu austère. Hein, quand on me voit, ça m'aide. Eh bien, ça m'aide, mais ça détruit le bien que je fais. En tout cas, ça le corrompt un petit peu. Hein. Je n'ai plus choisi, à ce moment-là, l'impératif comme seul motif. Je le prends comme motif principal. Et alors la méchanceté, c'est de choisir, c'est de subordonner carrément l'impératif catégorique à d'autres motivations. À d'autres motivations. C'est de la subordonner. Je dis oui, l'impératif catégorique est un motif parmi d'autres, hein, et souvent il perd, mais tant pis pour lui. Hein. Ça m'est égal. Hein. Moi j'aime bien l'animalité, j'aime bien la rationalité, bon, la moralité. C'est un motif plutôt qui va être subordonné à d'autres à l'occasion. Hein. Donc voilà, pour lui, le désordre qui est en nous est un désordre de fragilité. Donc personne n'est absolument sûr, 100%. Il est tous nous sommes fragiles, même les meilleurs. Certains ont une morale impure au sens où on mélange avec d'autres motivations et d'autres sont méchants parce que ils mettent toujours l'impératif catégorique au même plan que les autres. Hein. Mais dit-il, vouloir le mal pour le mal, ce serait diabolique. À son avis, ça n'existe pas. Personne ne choisit le mal pour le mal, ce serait diabolique. On choisit toujours un bien peut-être très inférieur, hein, contre tout le monde, mais on choisit toujours un bien. Il n'y a personne qui choisit quelque chose parce que c'est mal pour tout le monde. Là, il rejoint un peu saint Thomas d'Aquin, d'une certaine manière, hein, avec l'idée que le mal est toujours un bien particulier, très inférieur, mais n'est jamais purement du négatif. Alors, la conversion. De même que cette décision-là, originaire, hein, elle est inscrutable, eh bien, nous ne savons pas d'où vient notre penchant au mal. Mais en même temps, cette disposition au bien, elle est indéracinable. Personne ne la perd. Quels que soient les actes mauvais qu'il fait, la nature n'est jamais corrompue entièrement. Nous sommes sans cesse sollicités par cette disposition au bien, qui nous invite à faire le bien ou éventuellement à nous convertir, hein, si nous avons fait trop longtemps le mal, qui nous invite à la conversion. Donc, puisqu'il y a cette lutte entre les deux, nous sommes toujours invités à nous convertir. Mais alors attention, c'est Kant qui dit ça. Hein. Donc se convertir, c'est pas changer ses actes de apparemment mauvais en apparemment bon. Hein. Ça, c'est de l'hypocrisie. Hein. La conversion, ça n'apparaît pas dans les gestes extérieurs. En tout cas, c'est pas là principalement que s'effectue la conversion. Où s'effectue la conversion? Dans cette espèce d'acte transcendantal, justement, hein, qui est invisible aux yeux des autres, mais même peut-être à nos propres yeux. Hein. Donc, cette conversion, si c'est une vraie conversion, elle s'effectue à cette source même de la liberté, dans son rapport avec l'impératif catégorique, de manière invisible, de manière transcendantale, de manière intemporelle. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il est possible que si je me convertis intérieurement, hein, profondément, que petit à petit, les autres vont s'en rendre compte ou quoi, mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça la conversion. La conversion, c'est de l'intérieur, hein, de l'intérieur. C'est invisible, c'est une véritable révolution dans la mentalité de l'homme. Parce que l'homme sans cesse croit qu'il est meilleur, qu'il pourrait être meilleur qu'il n'est actuellement, et désire rétablir, Wiederherstellung, rétablir le principe du bien au-dessus du principe du mal. Et quel que soit l'équilibre qu'il y a entre les deux, hein, ou le déséquilibre qu'il y a, nous croyons toujours que nous pouvons mettre davantage la disposition du bien au-dessus du penchant du mal. Tous nous le croyons. Personne ne se lève le matin en disant « je vais faire que le mal ». Tout le monde dit « ah, je vais faire un bon petit déjeuner, je vais faire un bon travail, je vais faire… » Tout le monde veut faire du bien, hein, même à soi-même peut-être. Hein. Et tout le monde veut faire quelque chose de bon. Tout le monde veut rétablir cette bonté en lui-même. Mais c'est un progrès qui va à l'infini. Et donc cela exige une révolution intérieure. Alors je trouve ça assez intéressant, hein. Mais vous comprenez bien, même au niveau, à partir de votre pratique éventuellement, de la foi, etc. Hein, se convertir, comme vous savez, c'est pas simplement changer quelques petits gestes extérieurs pour que les autres voient que, c'est vraiment changer quelque chose à l'intérieur de vous, purifier, hein, une intention, c'est vraiment fortifier une volonté, etc. Alors comment le fait-on ? Ben, c'est bien difficile. La pureté des motivations est inobservable. Nous voulons purifier nos motivations, mais nous avons beaucoup de peine à mesurer la pureté de nos motivations. Hein. Pourtant, la velléité de la conversion est latente en toute la liberté. Toute la liberté voudrait se convertir, voudrait être meilleur. Mais certains, évidemment, comme dit saint Ignace, attendent le jour de leur mort pour se dire « ah, j'aurais dû le faire hein. ». Et d'autres s'y mettent un peu plus tôt, mais jamais assez tôt. C'est toujours trop tard. Ça aurait toujours préférable de le faire un peu plus tôt. Mais justement, ça fait partie de la conversion. De se dire que ce n'est pas parce que c'est trop tard, ce n'est pas parce que c'est complet, que ce n'est pas parce que c'est ceci, que je dois encore attendre plus longtemps. Ben non. Fait partie de la conversion l'idée que ça m'est tout à fait égal les gestes extérieurs, ça m'est tout à fait égal ce qu'on va penser de moi, je dois à l'intérieur de moi hein, rejoindre davantage ce principe du bien, hein, communier davantage, adhérer davantage à ce « du sollst, tu dois faire le bien ». Et c'est par une résolution qui doit être immuable, mais inébranlable, mais nous savons que c'est très difficile. Mais la conversion, c'est de croire que, même si je la vois instable, en fait, au fond de moi, elle est immuable. Je veux la faire immuable. Alors, je vois que je tombe encore, etc. Mais justement, une vraie conversion se remarque à la qualité de persévérance contre les apparences. La qualité de persévérance contre les apparences. Je tombe encore, oui, eh bien, tant pis, je persévère. Ça montre que la décision, elle a quelque chose d'inébranlable. Alors vous allez me dire, la persévérance, oui, combien de temps hein? Eh bien, cette persévérance se prolonge en espérance. Lorsque le converti, si on veut, espère pouvoir continuer aussi loin que possible et n'a plus peur d'être pris à n'importe quel moment de sa vie, même s'il n'est pas encore très loin dans son chemin de conversion, eh bien là, il est vraiment converti. Vous voyez un petit peu ça, c'est un peu... quelqu'un qui est... qui dans sa conversion, on n'en est que là, hein, par rapport au bien qu'il pourrait faire. S'il continue à avancer avec espérance et persévérance, il est peut-être plus converti que quelqu'un qui est là, et qui, une fois voilà, et puis n'était pas très sûr qu'il ne va pas reculer, etc. Hein, il y a quelque chose là, de l'ordre de l'invisible, peut-être même à nos propres yeux. Ce n'est pas la série des actes que nous faisons qui mesure notre conversion, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur. Alors on va peut-être reprocher à Kant de ne faire que des conversions d'intention, etc. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très, très fort et de très beau là-dedans, et de très chrétien, je crois. Hein. Le converti, ce n'est pas celui qui, justement, voit du jour au lendemain tous les fruits de sa conversion. Le converti, c'est celui qui ne voit pas grand-chose et qui continue à marcher vers la conversion. Hein. Et même s'il ne voit rien, et si tous les autres continuent à croire qu'il est un païen et un pécheur, il continue. Et il espère en Dieu, d'une certaine manière, hein, en Dieu, que Dieu va prendre cela en compte. Alors voilà, je vais quand même terminer en faisant une citation de Kant lui-même. Donc voilà, il admire, hein, ce principe du bien qui est toujours plus fort que le penchant mal, et il admire la personne qui est sans cesse en train de marcher dans sa conversion, sans cesse en train de se convertir davantage, sans se décourager, et indépendamment de ce qui est visible. Il est dans notre âme une chose que nous ne pouvons cesser de contempler avec émerveillement, avec l'émerveillement le plus grand, et assurément l'admiration est ici légitime. Alors que nous devons considérer tous nos désirs naturels dans leur ensemble, comme néant, animalité, humanité, hein, tout ça, néant. Et que nous devons nous considérer nous-mêmes comme indignes de l'existence. Reste ancrée en nous cette chose qui seule peut nous rendre la vie désirable. Cette loi morale toute pure, en vertu de laquelle la raison commande avec force, sans user ni de promesses, ni de menaces. Fais le bien parce que c'est le bien. Cette loi me commande avec force, parce que je sens vraiment que je suis appelé à faire le bien, mais elle me commande avec force, pas en me donnant des promesses, pas en me menaçant. Fais le bien parce que c'est le bien. L'incompréhensibilité même de cette loi et de notre disposition à la suivre annonce une origine divine et doit agir sur l'âme jusqu'à l'enthousiasme. Voilà comment Kant voit la disposition du bien progressivement gagnée, hein, en chacun de nous grâce à la conversion. Merci.